Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, derrière les chiffres, les mots ou les images, éclate parfois une toute autre réalité.
Oui, c'est le cas pour commencer de ces 50 millions de livres sterling qui agitent ce matin l'essentiel de la presse britannique. 50 millions, c'est en effet le montant que le gouvernement conservateur de Theresa May entend injecter pour la création de nouvelles places dans les fameuses grammar schools, ces établissements secondaires typiquement britanniques réservés aux meilleurs élèves. Parce que leurs détracteurs les accusent d'être trop élitistes et de renforcer les inégalités, ces écoles avaient été progressivement fermées, de sorte qu'il n'en reste désormais qu'une centaine à travers tout le pays. Et c'est ainsi que l'annonce de ce plan controversé, écrit ce matin The Eye, est venue ressusciter de façon spectaculaire la politique de Theresa May visant à favoriser l'éducation sélective, une politique que l'on croyait pourtant définitivement morte et enterrée. Il y a quelques semaines seulement d'ailleurs, un rapport universitaire accablant dénonçait le succès apparent de ces écoles, dû simplement à des élèves plus brillants et surtout plus favorisés. Ou dit autrement, s'insurge The Daily Mirror, qui parle ce matin de véritable scandale. Ces écoles ont pour seul effet de sélectionner les enfants les plus brillants d'une région, en s'assurant que toutes les autres écoles avoisinantes récupéreront, elles, les élèves non seulement les plus pauvres, mais aussi les moins doués. Alors le gouvernement assure que les établissements qui recevront de l'argent devront être en mesure de prouver qu'ils prennent des mesures pour augmenter le nombre d'admissions d'élèves issus de milieux défavorisés, précise The Daily Mail. Pour autant, la nouvelle a donc été accueillie avec un tollé, en particulier de la part des enseignants du secteur public, aux prises avec de très sérieuses réductions budgétaires. Et puis, ce chiffre en fait résonner un autre ce matin. Cette semaine, The Independent nous apprenait, lui, que plus de 3 millions d'enfants vivront sous le seuil de pauvreté en 2018-2019 au Royaume-Uni, soit 1 million de plus qu'en 2010, une hausse de pratiquement 50% en 8 ans. Ces chiffres, calculés par l'Institut de recherche Landman Economics, concernent uniquement les enfants vivant au sein d'un domicile familial avec des parents actifs. Toujours selon le journal de Londres, cité par le magazine Slate, les coupes budgétaires imposées par le gouvernement depuis plusieurs années en matière d'aide sociale, auxquelles s'ajoute le gel des salaires du secteur public, seraient directement responsables de la paupérisation de plus de 600 000 enfants. L'étude pointe également du doigt la baisse du pouvoir d'achat et la multiplication des emplois précaires. Un autre chiffre tout aussi dramatique, ça se passe aux États-Unis cette fois-ci. 4 millions, c'est le nombre d'Américains supplémentaires sans assurance santé depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Un retournement de situation spectaculaire, puisque sous la présidence de Barack Obama, le nombre de non-assurés était au contraire passé de 44 millions à 28 millions entre 2013 et fin 2016, suite à l'entrée en vigueur de la loi dite Obamacare. Pour The Washington Post, cité par le Courrier International, ce changement de tendance est en bonne partie le fait des efforts de l'actuel gouvernement pour saboter cette loi, et cela ne devrait pas s'arranger puisque des signes pointent en direction d'une érosion supplémentaire de la couverture en 2019. Alors, pour l'instant, Donald Trump n'en a cure, lui qui au contraire exulte, écrit ce matin The New York Times, après avoir accueilli cette nuit les 3 Américains libérés par Pyongyang, baignant dans la lueur des projecteurs et des caméras de télévision. Ce fut pour lui un moment de jubilation absolue, commente le journal, lequel rappelle à toute fin utile que si Donald Trump ne s'est pas gêné pour critiquer son prédécesseur pour n'avoir pas réussi à obtenir la libération des 3 hommes, 2 d'entre eux avaient en réalité été faits prisonniers après l'entrée en fonction de Trump. Quoi qu'il en soit, hier soir, l'image était évidemment forte et chargée en symboles à l'approche de sa rencontre historique avec Kim Jong-un, dont la date et le lieu ont enfin été révélés hier. Ce sera dans un mois, le 12 juin, à Singapour. Et puis toujours concernant la Corée du Nord, selon The Wall Street Journal, une nouvelle étude réalisée par une équipe de scientifiques internationaux révèle que les dommages causés en septembre dernier sur le site d'essai nucléaire de Punggye-ri, après le dernier test de Pyongyang, seraient beaucoup plus importants tant que ce que l'on pouvait imaginer, ce qui pourrait expliquer en partie la promesse pour le moins surprenante de Kim Jong-un le mois dernier de démanteler le site. Enfin, s'agissant cette fois-ci de la décision très contestée de Donald Trump de jeter aux orties la participation de son pays à l'accord sur le nucléaire iranien, elle continue évidemment d'alimenter encore ce matin nombre de commentaires, même si dans un premier temps la presse était restée prudente. En prenant soin d'écarter tout scénario apocalyptique, chacun doit à présent se rendre à l'évidence. La situation s'est littéralement embrasée après que des roquettes attribuées à l'Iran ont été tirées pour la première fois vers Israël, laquelle a immédiatement répondu en lançant une série d'attaques sans précédent, détruisant plusieurs installations militaires iraniennes en Syrie. Sauf qu'à en croire le journal Le Temps ce matin, avant d'être visé par des roquettes que les Israéliens ont au fait d'imputer aux gardiens de la révolution iranienne, l'État hébreu avait déjà décidé d'envoyer plusieurs bombes dans la partie du Golan non occupée ainsi que dans une zone industrielle à la périphérie de Damas et qui aurait tué 8 Iraniens. C'est donc cette première montée de tension passée sous silence par les autorités israéliennes qui aurait conduit ensuite au tir d'une bonne vingtaine de roquettes qui ont toutes manqué leur cible ou ont été interceptées. Et si le déroulé exact de ces événements a de l'importance, insiste toujours le journal, c'est qu'il semble traduire en réalité une opération israélienne largement préparée d'avance, sinon coordonnée avec l'administration de Donald Trump.